Bonjour, donc Guillaume Matt, c'est la bibliothèque municipale de Grenoble. Je vais vous parler de l'acquisition partagée entre trois collectivités, département de l'Isère, métropole de Grenoble et ville de Grenoble. Une présentation. C'est bon. Je ferai aussi un point ensuite qui va vous paraître peut-être un peu hors sujet et surtout un peu plombant pour l'assistance, je m'en excuse par avance, qui se concerne les questions de sécurité des plateformes avec lesquelles nous travaillons tous les jours et qui sont devenues, dans le cadre de ce marché et ensuite, en fait, des critères très importants dans les sélections de ressources. Avant ça, donc, un petit peu de géographie. Très rapidement, le contexte plutôt géographique qu'historique, parce qu'historique, il est très rapide. L'Isère, c'est un département d'un peu plus d'un million d'habitants qui contient très peu de métropoles, une en l'occurrence, et très peu de grandes villes de plus de 10 000 habitants. Et ce sont les villes qui sont en orange sur votre carte. L'ensemble de ce que vous avez sur la carte de droite étant une sous-partie du département de l'Isère, à savoir la métropole Grenoble-Alpes, qui est la plus petite des métropoles françaises, avec 450 000 habitants, dont 160 000 Grenoblois, comme je vous l'ai indiqué. Au total, l'Isère, donc c'est à peu près 300 bibliothèques, gérées essentiellement par la bibliothèque départementale de l'Isère, la BDI, et une trentaine sur le territoire de la métropole Grenoble-Alpes pour 49 communes dans cette métropole. Alors, ça va être un cours de millefeuille territorial. Vous savez, ça s'empile et on essaie de travailler quand même. Enfin, vous avez eu un aperçu tout à l'heure avec Camp-la-Mer et le Calvados. Ça va être un peu pareil pour l'Isère. Comment sur ce territoire, répondre à une demande qui était politique au départ, qui était l'équité territoriale d'accès aux ressources? On a donc plusieurs collectivités, plusieurs acteurs qui desservent ce territoire, que j'ai essayé d'incarner par le logo de leur portail, la médiathèque départementale de l'Isère et le portail numérique de la métropole Grenoble-Alpes qui s'appelle la Numothèque. Comment on va pouvoir offrir à tous ces habitants, avec toutes ces collectivités, une offre qui ne sera pas égale, ce n'est pas l'égalité d'offre, hein, c'est bien l'équité d'offre. Donc c'est une offre comparable. Quand je dis offre, vous verrez, derrière tout ça, il y a eu un marché public sur l'ensemble des ressources numériques, enfin l'ensemble des types de ressources numériques que propose Réseau Carrel. Donc l'idée était de reconstruire une offre de médiathèque, en fait, numérique, tout simplement, qui soit disponible à la fois sur les portails des uns et des autres, pour tous les citoyens. Puisque la particularité, contrairement à Camp-la-Mer et au Calvados, c'est que chacune des collectivités impliquées a son propre portail. Dans un cas, c'est Syracuse, dans l'autre, c'est Adimeo, un portail sur mesure, un peu sur le même modèle que ce que fait l'Imedia. Et comment on fait pour que l'usager, quelle que soit sa commune d'appartenance, quel que soit le portail qu'il utilise, arrive à peu près sur une offre comparable? La seule solution, c'est en fait de constituer un groupement de commandes avec tous les acteurs concernés pour acquérir les mêmes ressources et ensuite laisser chaque bibliothèque se débrouiller sur son portail pour proposer ce qu'elle peut. Alors, il y a eu quelques opportunités, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a une opportunité politique qui était exceptionnelle, c'est-à-dire que les deux présidents du département de la métropole et le maire de Grenoble se sont mis d'accord, ont signé une convention. C'était au début des mandats, c'était pas encore la guerre, etc. Enfin, voilà, tout allait bien. L'autre opportunité, c'est simplement que les marchés de ressources numériques de la médiathèque départementale est arrivée à expiration. Et donc, il fallait renouveler quelque chose, enfin, il fallait renouveler leur offre. Ce que vous avez à l'écran, c'est le résultat de plusieurs semaines de travail entre les trois collectivités, à savoir l'offre qu'on veut proposer sur les différentes plateformes. Du coup, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a pas mal de redites. On a l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, ça couvre à peu près tous les types, enfin, Emmanuel pourra me contredire, mais ça couvre à peu près tous les types d'offres qui sont proposées par Réseau Carrel, puisque, enfin, hors le livre numérique, dont je reparlerai, puisque l'objectif, encore une fois, était de construire une offre plurielle correspondant aux besoins et aux demandes de la médiathèque départementale et de la numothèque. Dans tous les domaines. Donc vous avez de la musique en ligne, vous avez de la vidéo à la demande, en bouquet, mais aussi en titre à titre, et de la vidéo à la demande en documentaire. Alors les habitués des ressources numériques voient à peu près quels sont les fournisseurs qui sont derrière. Et en fait, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est un marché très orienté par ce découpage en lots hyper précis. Mais en fait, on a eu, sur tous ces lots que vous avez à l'écran, on a eu à chaque fois plusieurs réponses. Parce que certains acteurs sont capables de répondre sur toutes les lignes. CVS a répondu pas 12 fois, mais pas loin. Certains ont répondu sur plusieurs lignes. Sur la vidéo à la demande, vous voyez bien les offres hein, de bouquets, vous pensez à Arte. La vidéo à la demande au titre à titre, c'est plutôt chez ADAV que ça se passe, ADAV Digital. Donc, ce qui était en jeu aussi, c'était de respecter les choix des collectivités, les choix historiques des collectivités. La médiathèque départementale de l'Isère préférait une offre en bouquet et Grenoble préférait une offre en titre, une offre en titre à titre. Dans un marché comme ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun a activé le lot qui l'intéresse et n'a pas sélectionné le lot qui ne l'intéresse pas. C'est valable sur la vidéo à la demande, c'est valable également sur, alors de manière plus précise encore, sur le 12e lot qui concerne les livres audio numériques, puisque ce lot n'intéressait que la bibliothèque départementale et non pas la métropole. Ensuite, en fait, j'ai envie de dire, chacun fait son marché. Si vous regardez ce qui se passe sur la presse grand public, vous voyez du bouquet, vous pensez forcément à Caféine, vous pouvez penser à Press Reader. Sur la presse quotidienne, vous voyez se dessiner Europress ou d'autres plateformes équivalentes, et ainsi de suite. Donc chacun prend et active le lot qui l'intéresse pour composer son offre sur son propre portail. La particularité de ce marché aussi, c'est qu'il excluait les connecteurs. Ça a été spécifiquement marqué, c'est-à-dire que comme chaque collectivité reste maîtresse de son portail, c'est elle qui prend en charge les frais de connecteur, c'est elle qui va prendre en charge éventuellement les frais de développement spécifiques, les frais de maintenance spécifiques inhérents à son propre portail. Je rentre dans la cuisine de l'analyse des offres. Parce que quand on a construit ce marché, vous voyez qu'il y avait eu 12 lots, mais les 12 lots avaient un BPU commun. Et il a bien fallu envisager toutes les situations. Donc c'est ce qui a été abordé ce matin. Effectivement, essayer de faire le tour de tous les modèles tarifaires, de tous les modèles commerciaux disponibles sur le marché, sachant qu'on doit traiter pour une population d'un million d'habitants avec un nombre d'inscrits variables, etc. Donc on a retenu finalement quatre critères. Le nombre de comptes utilisateurs actifs. Donc là, c'était très... Et on a défini ce qu'on entendait par un utilisateur actif. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est connecté à la plateforme depuis moins d'un an. Enfin, là, on est assez proche des définitions du ministère de l'enquête annuelle. Le nombre d'accès simultanés. Le nombre de consultations. Le nombre d'usagers inscrits. Et pour finir, la population desservie par la bibliothèque. Et en fait, plus on descend, moins il y a de réponses qui utilisent ce critère. La plupart du temps, on est sur des comptes utilisateurs actifs, parfois des accès simultanés, en particulier sur la presse, ça vous le savez, des nombres de consultations, et puis les deux derniers sont très très peu utilisés en fait dans les réponses des candidats. Alors j'ai pas daté ce marché, il a été lancé en 2019. Il a pris effet au 1er janvier 2020 et il est toujours actif jusqu'à fin 2023. On a aussi invité les candidats à se, voilà, à vraiment définir leur offre en tenant compte de données les plus précises possibles, des données si possible INSEE, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'elles soient validées par tout le monde. Des données partagées, en fait, tout simplement. Et on leur a donné aussi la possibilité de faire des propositions tarifaires supplémentaires. Si, par exemple, ce que j'ai mis là, si on doit ajouter 1 000 comptes, combien ça coûte? Si on doit ajouter un accès simultané, combien ça coûte, etc. Le but étant bien d'arriver à comparer des choses qui sont difficiles à comparer, et ça, on l'a bien dit ce matin, hein. C'est des choses qui sont, c'est des modèles économiques qui sont très différents, mais sur les mêmes types de ressources, on a réussi quand même à comparer des offres aux modèles tarifaires distincts. Ça ne pose pas de, ça ne posait pas de questions. Alors, en termes de résultats, ça a été pour nous vraiment intéressant dans la mesure où ça a permis de développer d'abord une offre commune en termes de ressources au niveau de la métropole, donc les 49 communes et toute leur bibliothèque. Ça a permis aussi de collaborer avec des services qui ne se parlent pas, alors qu'ils travaillent souvent à 200 mètres les uns des autres, hein, puisqu'à Grenoble, tous ces services sont au même endroit, ou presque. Donc ça peut être les bibliothèques, ça peut être les services des marchés, les directions de la culture, les services informatiques, enfin voilà. Donc simplement, on était réunis par un projet commun qui était une commande politique très précise. Ensuite, grâce aux mécanismes tarifaires d'un certain nombre de prestataires, en particulier sur la presse quotidienne, ça a permis de faire des économies vraiment importantes pour certains lots. Puisque vous le savez peut-être ou pas, mais la tarification appliquée aux zones rurales n'est pas la même que la tarification appliquée aux zones urbaines sur la presse quotidienne par certains acteurs du marché. Et dans le cas de Grenoble, ça a été extrêmement important comme économie. Enfin, on est à plus de 25 000 euros sur un marché qui était à 150 000 au départ. 25 000 euros sur la presse, c'est non négligeable. Et voilà, ça permettait de justifier tout le travail qui avait pu être fait jusque-là. Autre intérêt qui concerne donc les petites communes, entre guillemets, donc toutes celles qui sont en jaune sur cette carte, c'est que si vous avez suivi le raisonnement et si vous n'êtes pas trop fatigué, vous avez peut-être compris qu'il y a une double offre sur ces petites communes, fournie à la fois par la bibliothèque départementale et par la métropole. Donc pour un habitant qui représente la majorité de la métropole, hein. Un habitant de ces petites communes, ça permet de doubler l'offre, de bénéficier de chaque spécificité de chaque offre. Moi, comme vous l'avez compris, sur la VOD, il est capable, un habitant un peu malin est capable de comprendre que s'il se connecte sur le département, il peut accéder à l'offre d'Arte, et s'il passe par la métropole, il va accéder à l'offre d'Adap Digital. Donc on en a quelques-uns comme ça, d'autant plus que c'est là où ça commence à devenir intéressant. Les bibliothécaires sont capables, 2 ans après le lancement quand même de tout ça, pas loin aujourd'hui, les bibliothécaires des communes sont capables de présenter les deux offres quand elles sont disponibles sur leur territoire. Et ça a mis beaucoup de temps. Donc j'ai une collègue de la métropole dont c'est le poste en fait d'animer ce réseau de lecture publique numérique. Qui contribue à faire en sorte que les bibliothèques des territoires en jaune sont capables de percevoir l'intérêt d'une offre double et de la présenter à leur lecteur. Alors, je n'ai pas sorti les statistiques parce que vous en avez vu beaucoup dans la journée et ce sont les mêmes, je n'aurais pas de surprise à montrer. On a vu, bien évidemment, en avril 2020, une augmentation des inscriptions, puisqu'on a à ce moment-là ouvert les inscriptions en ligne. On a eu les mêmes problèmes que toutes les autres bibliothèques, à savoir que dans certains cas, l'offre ne suivait pas. Enfin, c'est-à-dire que ce qui avait été dimensionné pour un fonctionnement normal ne suivait pas pendant une période de confinement. Mais globalement, après cette période, on est retombé à. On est resté plus haut qu'auparavant, mais on est retombé sur un état stable qui correspond à ce que vous avez vu, que ce soit sur la Bibliothèque de Paris ou sur le Calvados, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a on a franchi un palier, on est resté sur un palier supérieur depuis. Est-ce qu'il y a des questions sur le millefeuille que je viens de vous présenter avant que je passe à un autre aspect un peu plus technique? Oui, pour un accès aux deux ressources, il faut passer par les deux portails. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas. C'est une réflexion qu'on a eue avec nos collègues de la médiathèque départementale de fusionner les bases, enfin, de mettre les bases d'utilisateurs en rapport, mais ça posait d'énormes questions techniques, ça pose aussi d'énormes questions de respect des données personnelles. Enfin, voilà, il y avait énormément de questions. C'est un marché qui s'est fait très vite, hein. Je l'ai pas dit, mais ça a été bouclé en moins de 6 mois, parce qu'on a travaillé dessus à l'été 2019 pour une ouverture au 1er janvier 2020. Ça a été très très rapide. Donc finalement, on a laissé chacun sur sa plateforme avec ses utilisateurs. Et donc c'est le seul bémol effectivement qui reste pour un utilisateur, c'est qu'il est obligé de choisir par quelle porte il rentre. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste vous alerter sur un point qui est important dans les marchés, qui risque de le devenir de plus en plus, qui est la question de la sécurité de ces plateformes. Puisqu'en fait, dans la plupart des cas, on souscrit un abonnement auprès d'une plateforme externe. Ces plateformes externes, dès qu'elles vous demandent de créer un compte, elles stockent des données personnelles. Alors, on est d'accord, je ne vais pas m'aventurer dans des données personnelles très sensibles. Hein. On n'est pas sur des données de santé, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. On n'est pas du tout là-dessus. Mais on est sur des données personnelles nominatives, des adresses, des âges, enfin des dates de naissance, des choses comme ça. Potentiellement des données qui peuvent concerner des mineurs quand on a une offre jeunesse. Donc finalement, on va considérer qu'on est sur des données moyennement sensibles, peu sensibles à moyennement sensibles sur le critère de la CNIL, mais un peu sensibles quand même. À partir de ce moment-là, toutes ces plateformes sont considérées comme des téléservices. Téléservices au sens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont on a aussi pas mal parlé ces derniers mois suite aux différentes attaques informatiques des collectivités. Et l'ANSSI, donc, en 2020, a actualisé ce qui s'appelle le référentiel général de sécurité, qui impose en fait que tous les téléservices fournis par les collectivités soit homologué. Alors c'est quelque chose qui est encore très récent dans les collectivités, petite ou moyenne ou grosse, c'est encore quelque chose qui est balbutiant. Mais il est probable que ça devienne assez vite la norme. Pourquoi? Parce que théoriquement, un téléservice est un service offert aux citoyens et engage la responsabilité de la collectivité qui le met en place. Donc assez vite. Vous voyez où je veux en venir, en cas de défaillance, en cas d'attaque informatique sur une plateforme externe de ressources classiques en bibliothèque, c'est la responsabilité de la collectivité qui est engagée, puisque la collectivité a choisi de proposer ce service à ses habitants. Pour éviter les déconvenues et les ennuis divers et variés, la seule solution, c'est que la collectivité procède à une homologation du téléservice au cours duquel elle va faire un audit de sécurité, va vérifier que les données personnelles sont correctement collectées, correctement conservées, correctement supprimées, puisque c'est de ça dont on parle. Elle va vérifier que le prestataire est capable d'avoir un niveau de sécurité informatique correct, pas forcément excellent, mais au moins correct. Et au vu de cet audit, elle va prendre une décision. La décision de la collectivité, c'est oui ou non, j'assume le risque de proposer ce service à mes citoyennes et mes citoyens, et avec telle ou telle réserve qui peuvent être émises à l'encontre du prestataire. Alors l'ANSSI n'est pas complètement naïve, elle connaît le marché, elle sait très bien que les prestataires informatiques en général, et ceux qui nous concernent en particulier, ne sont pas d'abord des ingénieurs dédiés à la sécurité des systèmes d'information, ce sont d'abord des fournisseurs de contenu, ou des fournisseurs de logiciels avant d'être des ingénieurs en sécurité. Donc elle prévoit bien une révision régulière dans une démarche de ce qu'elle appelle une amélioration continue. Elle prévoit une révision régulière de cette homologation. L'homologation, elle est valable au maximum 5 ans. Dans le cas de Grenoble, je repasse les téléservices que nous avons achetés dans le cadre de ce marché. Je les repasse en comité d'homologation tous les 6 mois. Je laisse à chaque fois à peu près 6 mois aux prestataires pour tenter d'améliorer les choses. On a beaucoup parlé du RGPD en 2018 quand il est arrivé. Il y a eu une sensibilisation. Les prestataires ont rechigné, mais on finit par s'y mettre. Aujourd'hui, quand vous faites un marché, vous avez une clause RGPD, vous êtes obligé de nommer dans votre collectivité un défenseur à la protection des données, et chaque prestataire doit vous proposer un responsable de la protection des données de son côté. Donc c'est quelque chose qui a été intégré, qu'on voit bien aujourd'hui. Alors, il n'en est pas du tout encore, c'est pas du tout le cas encore pour le référentiel général de sécurité, qui commence juste à arriver dans les marchés et surtout qui n'est absolument pas pris en considération par les prestataires qui nous concernent, nous, fournisseurs de plateformes de ressources numériques pour les collectivités territoriales. Alors là, je parle de l'expérience de Grenoble, hein, puisque moi, je fais des comités d'homologation depuis 2016. Depuis 2016, j'ai les mêmes problèmes avec les mêmes prestataires que vous connaissez tous. L'audit de sécurité donne les mêmes résultats. Je fais des recommandations qui ne sont pas suivies. Je fais intervenir des élus qui ne reçoivent pas de réponse à leurs sollicitations. Donc je pense que nous avons un petit problème avec ce dialogue. Voilà. Donc on parle de ce que peut faire une action collective type réseau Carel, mais via réseau Carel. Moi, je pense qu'il est important qu'on porte un message quand même sur la qualité des réponses au moins à apporter par ces prestataires. Parce que, et c'est pour ça que je rejoins la thématique de la journée, le seul moment parfois où on peut dialoguer avec les fournisseurs de contenu, c'est la période de marché public. C'est valable, voilà, sur le RGPD, j'en ai parlé, c'est déjà le cas. Mais aujourd'hui, pour aller au bout de la démarche, il faut en fait inclure des questionnaires RGPD, des questionnaires RGS dans les marchés publics pour être sûr d'avoir une réponse. Sinon, vous n'aurez pas forcément de réponse, en fait. Sur des questions qui peuvent être très précises, très techniques parfois, les fournisseurs n'ont pas envie de dévoiler leur cuisine interne, n'ont pas envie d'expliquer sur quel type de serveur ça fonctionne, quelles sont les précautions prises pour la conservation des données, etc. Et donc c'est difficile d'obtenir des réponses. Oui. Alors, je ne sais pas si ça vient du responsable de la sécurité des systèmes d'information, mais souvent c'est ce type de profil qui lance ce genre d'audit de sécurité sur l'ensemble des services numériques ou l'ensemble des services informatiques. Et souvent, quand on fait ça, les opaques, parce que les opaques sont très mal codées tout simplement, et les ressources numériques externes font les frais de ce genre d'enquête, enfin d'audit, parce que c'est la priorité de ces services-là n'est pas la sécurité, la priorité de ces services c'est de fournir un service le plus simple possible, avec des problématiques d'accessibilité, avec des problématiques souvent aussi d'ergonomie, et la sécurité passe en second plan. Donc dès qu'il y a un audit, oui, je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé, parce que c'est quasiment toujours comme ça, oui. Donc, au niveau du marché, ce qu'on peut faire, comme je disais, c'est inclure des pièces qui sont déclaratives pour l'instant, qui demande aux prestataires de se positionner sur la conservation des données, est-ce qu'il est capable de les conserver de manière sécurisée, de les supprimer régulièrement, etc. Est-ce que ces serveurs sont localisés dans un territoire européen, puisque c'est aussi une des commandes. Est-ce que les cookies sont correctement envoyés aux utilisateurs, etc. Enfin, voyez, il y a des listes comme ça. Aujourd'hui, un bon questionnaire RGPD, ça peut faire une dizaine de pages. Et un bon questionnaire RGS, comme j'en ai envoyé un ce matin à 10 prestataires qui sont tous au catalogue de réseau Carel, ça fait 11 pages de questions techniques, très techniques, sur la version des serveurs, la qualité des pare-feux, qui a accès aux données physiquement, qui a accès à distance, etc. Voilà. Donc ça peut compliquer les marchés, on est d'accord, mais l'objectif est bien d'éviter que quand il y a un audit, ça tombe sur ses ressources, et quand il y a une attaque, ça passe par ses ressources. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser un outil qui est libre et gratuit et commun, et qui est très efficace, qui est très parlant, avec lequel j'ai commencé à dialoguer avec les prestataires de l'Anumothèque, c'est l'Observatoire Mozilla, qui est une sorte d'inspecteur de la qualité du code et d'inspecteur de quelques précautions de sécurité. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un outil gratuit, accessible à tout un chacun. Il suffit de rentrer une URL et vous recevez une note qui va de A à F. Alors, je vous dirai pas qui est derrière le F, mais il est bien au catalogue de Carel. Le B- est aussi au catalogue de Carel et c'est la meilleure note que j'ai obtenue sur les 10 ressources que nous proposons. Aucun prestataire aujourd'hui n'est capable d'avoir un A ou un A+, parce que, encore une fois, leur priorité n'est pas la sécurité, leur priorité est la qualité, l'ergonomie, l'accessibilité de la ressource. Donc, ce qu'on va leur demander à Grenoble, et peut-être que c'est un message qui pourra passer par Carel aussi, c'est de savoir équilibrer les choses entre l'ergonomie, l'accessibilité et le respect d'un minimum de sécurité des données. Parce que derrière, encore une fois, on a beaucoup parlé de RGPD, peut-être que dans vos bibliothèques ça arrive, mais maintenant on a des utilisateurs qui râlent parce qu'on met des cookies pas au bon endroit, parce qu'ils ne peuvent pas se déconnecter comme ils veulent, etc. Donc derrière, il y a quand même une sensibilisation qui augmente chez nos usagers. Et donc, une vraie question de confiance, en fait, qui se pose. Donc, c'est à ce titre-là, je pense qu'il faut les rassurer sur un certain nombre de points, RGPD ou sécurité des données. Voilà, j'ai fini pour ce que je voulais vous présenter. S'il y a des questions.
Prestataire extérieur ou c'est la DSI de Grenoble qui fait cette homologation?
Oui, pardon, je n'ai pas détaillé le processus. Le comité d'homologation, il est piloté par une élue. Il a toujours été piloté par un ou une élue. C'est un comité politique. Et il associe donc la DSI, en l'occurrence le RSSI, c'est-à-dire le responsable de la sécurité informatique, et le délégué à la protection des données, l'ancien correspondant CNIL. Et le service fournisseur du téléservice. Donc en l'occurrence... Chaque plateforme en fait a son homologation et passe devant ce comité une ou deux fois par an. Au préalable, donc le RSSI fait une étude et va pointer ce qui va ou ce qui ne va pas. Le responsable des données personnelles va également faire une étude et va pointer ce qui va ou ce qui ne va pas, d'après ce qu'a déclaré le fournisseur. Et ensuite, le comité prend une décision. Oui, non. Bon, pour l'instant, c'est oui, mais. La réponse la plus fréquente, c'est oui, mais. Et donne un certain temps aux prestataires pour se mettre en conformité avec les exigences qui ont été formulées. C'est un travail de longue haleine et qui avance vraiment pas à pas. Hein, vraiment. En fait, toute interface, dès qu'elle est offerte au public. Donc, dans le cas dont vous parlez, c'est le cas effectivement à Grenoble, ça peut être le cas aussi à l'immédiat. Le portail lui-même, qui est un téléservice, et aussi tous les services auxquels le portail donne accès. Donc pour 12 ressources, vous avez 12 ressources plus le portail, par exemple. Avec chaque fois la même démarche à mener
Alors, je change de sujet. Non pas que la sécurité ne m'intéresse pas, au contraire, mais en fait, par rapport à la présentation, je crois, qui était juste avant le marché, la slide sur le marché, il y a quelque chose que je n'ai... après, je crois... Non, c'est avant, alors. Bon, je vais essayer de m'en souvenir. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Tu présentais la population de Grenoble et la population de... Voilà, c'est là. Voilà. Et la si j'ai bien compris, la population de l'Isère, ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que dans le département de l'Isère, dans les 800 000, tu enlèves les 450 000 de Grenoble ou non ?
Non, non, non. Non, pardon, j'ai simplifié parce qu'effectivement, il y a une subtilité. C'est qu'en fait, là, vous avez une ville de Grenoble qui est marquée. En fait, la ville de Grenoble est opératrice du portail métropolitain par délégation. Donc en fait, c'est la ville de Grenoble qui répondait au marché pour l'ensemble de la métropole. Grenoble n'a pas pris 300 000 habitants en trois slides. Hein. C'est bien 160 000 habitants à Grenoble. Simplement, dans ce marché, c'est la ville de Grenoble qui est porteuse pour la métropole. Voilà. Ben, je pense que c'était ça le problème.
Merci.
Vous passez les acquisitions par le biais d'un groupement de commandes, puis on voit bien qu'en fait, vous avez fait en sorte... Vous n'avez que deux personnes dans le groupement de commandes, donc c'est assez... Enfin, entre
elles
guillemets...
Là, oui.
Ouais, c'est la ville et le département, du coup. Et vous n'avez pas trié dans les ressources, puisque vous avez tout alloti et est allé assez finement avec des marchés qui servent qu'à un des deux membres du groupement, quoi.
Dans certains cas, oui. Mais ouais. La plupart du temps, on a été quand même acheté par les deux.
Oui, oui, d'accord. Et du coup, est-ce que vous comptez faire évoluer ou est-ce que vous avez une réflexion pour faire évoluer ça ou pas du tout ?
Oui, ça évoluera forcément parce qu'entre-temps, comme les lots sont effectivement très précis, ils correspondaient à des besoins très précis à l'époque. Voilà. Et ils correspondaient aussi à ce que le marché était capable de fournir à l'époque. Là, il manque le livre numérique parce que chacun avait son marché de livre numérique à part, son libraire, etc. Il manque aussi quelque chose qu'on aurait bien aimé intégrer, c'est la bande dessinée. Parce que le seul opérateur de bande dessinée en streaming, Isneo, voilà, on a regardé, ça nous obligeait, pour proposer de la bande dessinée, on était obligé de passer par CVS, qui a une exclusivité de distribution. Et en accord entre les différents acheteurs, on a renoncé. Si demain Isneo propose une offre en direct ou sans exclusivité CVS, peut-être qu'on remettra la bande dessinée comme un nouveau lot. Voilà. Donc en fait, on fait évoluer le marché beaucoup en fonction de l'offre de ressources telle qu'elle est présentée effectivement sur le site de Réseau Carrel.
Mais pas la coopération entre les deux membres. Vous resterez en groupement de commandes.
Oui, l'objectif, oui. Oui. On n'a pas, enfin, j'ai bien entendu tout l'intérêt de faire un JIP ou ce genre de choses, mais on n'a pas du tout les moyens de le faire. Non, non.
Pardon, c'est une information. Guillaume parle de la bande dessinée. Alors, je ne le savais pas, mais j'en profite pour le dire. Ça peut en intéresser d'autres. À la BPI, nous avons été dans le même dans la même situation. Nous avions auparavant l'offre Isneo par Isneo. Puis lorsque Isneo a confié sa commercialisation à CVS et son exclusivité, nous avons voulu poursuivre. Et pour nous, de toute façon, même si on en avait voulu, on va dire, de ce fonctionnement, on n'aurait pas pu le mettre en place à la BPI, puisque pas d'inscription, pas d'usager connu, rien. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc on a négocié avec CVS et Isneo pour qu'ils nous fassent une offre. Alors certes, qui de façon complètement mais transparente pour nous passe par CVS, mais on veut, c'est pas qu'on veut pas le savoir, mais c'est possible, ils nous le font.
Oui, juste pour compléter, en fait, je pense que Isneo a confié la commercialisation de la plateforme à CVS parce qu'il résolvait cette histoire de SSO.
Oui.
Et comme à la BPI, il n'y a pas besoin de SSO.
Pour l'instant.